fermé René Lévesque, donc il y avait constamment de la circulation. Résultat, aucun incident, plusieurs gros mots, mais aucun incident à signaler du côté des policiers.
Merci beaucoup, Annie. On aura l'occasion de s'en reparler. Je pense qu'il y aura d'autres manifestations dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Vous dire aussi que, on le sait, l'Université McGill a déposé une demande d'injonction pour que soit démantelé le campement sur son campus. Et la décision, on annonçait ça pour aujourd'hui, hier, mais finalement, semble que ça ne tombera pas aujourd'hui. Oscar's Motel, DJ Max P. Paquet, qui est toujours la bonne chanson. On parlait du motel Oscar, c'est sur le territoire de la ville de Longueuil. Ça semble-t-il été un endroit assez mythique, assez connu là sur la ville de la Rive-Sud. Et c'était à l'abandon depuis quelque temps. Et Catherine Fournier, la mairesse aujourd'hui, a fait un statut sur Facebook. Elle a rapporté que la ville de Longueuil a eu gain de cause. On a réussi à convaincre le propriétaire de nettoyer le site, parce que le site était à l'abandon. Au-delà du motel Oscar, ça pose toute la question de ces immeubles qui sont abandonnés par les propriétaires, qui sont pas valorisés, qui occupent de l'espace. Des fois, c'est en ruine, des fois, c'est pas en ruine, mais ça pourrait servir à autre chose. Et bien souvent, quand c'est en ruine comme ça, quand c'est laissé à l'abandon, c'est comme une cicatrice au milieu de la ville. Luc Ferrandez, qui s'y connaît en ville, est avec nous. On va lui demander de commenter. Salut, Luc.
Salut, Patrick.
Qu'est-ce que tu penses de la saga du motel Oscar?
Avec une grande spécialité québécoise, de laisser un immeuble à l'abandon. On appelle ça souvent démolition par abandon quand c'était un immeuble patrimonial puis que les propriétaires ne veulent pas les réparer. Tu te rappelles les deux immeubles devant le parc Jeanne-Mance, deux magnifiques immeubles en pierre. Donc là, la ville veut intervenir, veut demander aux gars de faire des réparations. Il y a plusieurs obstacles. Des fois, on trouve pas le propriétaire. Des fois, on le trouve, mais il va accepter de payer les contraventions année après année sans jamais réparer ses immeubles. Dans ce cas-là, il payait des contraventions pour laisser le tas de débris. La ville peut pas aisément intervenir sur le terrain d'un privé. C'est pas facile. Faut que tu fasse une démonstration à la cour. Tu peux le faire par ordonnance. Par ordonnance, tu peux dire, OK, je vais le faire, puis après ça, je vais te facturer.
Oui, mais là, il faut que tu cours après pour te faire payer.
Et voilà. Et le gars, dans ce cas-là, il était criblé de dettes. Alors, tu sais que c'est... Le gars va finir par avoir eu raison de toi parce que tu vas payer pour faire son travail.
Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de faille juridique qui permet à des gens de laisser faire, de négliger l'immeuble d'une part, puis on le sait, les villes ont besoin d'espace. T'sais, si toi, tu veux pas le développer, tu veux pas t'en occuper, ça pourrait servir à autre chose.
Absolument pas. La logique s'applique pas. Là. On peut pas faire ça. Le droit de propriété, c'est vraiment un droit puissant dans la Constitution, puis dans nos lois et règlements. Il y a un motif où tu peux intervenir, par exemple, dans ce cas-là, pour si tu l'avais voulu forcer à ramasser ses affaires plus vite, en disant, ben là, c'est un ordre de cour, c'est pas juste une contravention, c'est s'il y a un problème de sécurité. Mais un problème de sécurité, il faut que tu en fasses la démonstration. Rappelle-toi l'immeuble au coin de Chérier-Saint-Denis pendant un an et demi à peu près, il ramassait pas ses débris. Bon, d'abord parce que les pompiers veulent faire une étude pour savoir s'il y avait
une enquête.
Une enquête. Puis après ça, les compagnies d'assurance vont prendre du temps avant de faire une analyse. Après ça, le gars va se faire tirer la pipe. Ça va prendre bien longtemps. Ça a pris un an et demi avant qu'il le fasse. Mais quand tu dis, il y a un problème de sécurité, il y a des passants qui passent à côté, là, tu peux intervenir tout de suite.
Oui, mais disons que le propriétaire décide de mettre des clôtures.
Voilà.
Le problème de sécurité est réglé.
Oui.
Mais le problème d'occupation de l'espace, de valorisation de l'espace, lui, dans un contexte où on a besoin de loger du monde, il n'est pas réglé, là.
La seule chose que tu peux faire, tu peux faire une expropriation ou tu peux faire un droit de préemption. Un droit de préemption, tu vas dire, si tu tentes de vendre cet immeuble-là, tu dois l'offrir à la ville en premier. Puis comme ce terrain-là, il y a eu un incendie, il y a des débris dessus, etc., tu vas l'avoir à la valeur marchande, que ça peut être un bon deal. Mais à part l'expropriation puis le droit de préemption, il n'y a pas d'autre possibilité.
Ce que Catherine Fournier dit, c'est on aurait pu aller en cours, mais bon, on aurait dépensé beaucoup, beaucoup d'argent. On y a donné des amendes. Ça a été distribué, il a été obligé de payer. Et là, ce que la mairesse dit, là, c'est que le propriétaire a décidé de nettoyer le site du motel. Ça, est-ce que c'est une meilleure avenue que...
Mais c'est une avenue longue. C'est une avenue longue, mais pour les contribuables, c'est la meilleure avenue. Ça force le gars à dépenser son propre argent pour nettoyer son terrain. Mais ça te dit quand même que si quelqu'un est négligent, si par exemple, il n'y a pas juste les démolitions, là, les gens qui ont le problème de Diogène, le hoarder en anglais, qui ramassent des choses sur leur terrain, les voisins peuvent se plaindre pendant des années et des années. On va finir par intervenir quand, par exemple, il y a vraiment un cumul de trucs sur le terrain, donc il pourrait y avoir un incendie. Ça peut prendre des années avant qu'on intervienne.
Donc, c'est le droit à la propriété,
voilà.
Le droit constitutionnel qui est en jeu dans cette affaire.
Absolument, qui s'impose.
OK. Y a-t-il des endroits dans le monde où, si tu t'occupes pas de ton building, on va s'en occuper pour toi?
Ben écoute, j'ai pas fait de recherche là-dessus. Je sais qu'il y a des droits, il y a des villes qui sont beaucoup plus vite sur la gâchette à cause de la question de la sécurité. Des villes où le gars sur son terrain, une grange en arrière, il n'y en aura pas là, d'intervention. À New York, à peu près à chaque fois qu'il y a un immeuble abandonné, il y a un passant qui passe devant. Et là, il peut avoir un problème de sécurité. Il peut avoir un problème de sécurité aussi s'il y a un risque d'incendie. Donc, dans les villes plus denses, ça doit être beaucoup plus facile d'intervenir. Mais c'est une interprétation légère.
Mais c'est quoi les pires cas que tu as vus quand tu étais maire d'arrondissement? D'immeubles qui auraient pu être valorisés, qui auraient pu accueillir du monde, qui l'ont
pas
été. Mon
Dieu, la plupart des immeubles patrimoniaux qui sont abandonnés parce que s'ils font une réparation, ils sont obligés de se conformer à des règles du patrimoine. Les deux cas les plus tragiques dans l'arrondissement du plateau Mont-Royal, c'était ces deux belles maisons, c'est le Palacio en pierre, devant le parc Jeanne-Mance. Le gars, en plus, c'est un fonctionnaire au fédéral. Il était, on le savait, c'était qui. On lui envoyait des contraventions à chaque année, des dizaines de milliers de dollars de contraventions, il les payait.
Mais c'est quoi son motif? Il n'y avait pas d'argent pour réparer?
Ben, c'est même pas quelqu'un qui avait un problème de santé mentale. Il voulait juste pas le faire. Il voulait juste pas le faire. Et c'est terrible parce que là, tu t'aperçois que un truc aussi simple qu'un gars veut pas le faire, il est indépendant de fortune, il paye ses contraventions, la ville est impuissante. Donc, moi, je milite vraiment pour avoir un droit beaucoup plus puissant d'intervention en cas de patrimoine. Par exemple, expropriation à la valeur de l'immeuble tel qu'il est là. Pas à la valeur marchande, pas à la valeur propriétaire. Tu sais que le droit civil québécois t'oblige à payer la valeur du propriétaire. Et ça veut dire la valeur que le propriétaire estime qu'il pourrait avoir s'il transformait son terrain en maximisant ses profits. Moi, les autres provinces du Canada ont une expropriation à la valeur marchande, c'est-à-dire ce que tu pourrais faire avec le terrain tel qu'il est là en ce moment. C'est ça, c'est de ça qu'on a besoin. Et cette règle-là de l'expropriation à la valeur marchande là, nous sauverait des dizaines de cas en cours puis des frais d'avocat et permettrait de libérer des terrains pour faire un meilleur usage.
Merci, Luc.
Merci, Patrick.
T'es libéré. Merci d'avoir fait du temps supplémentaire pour nous.
C'est un grand plaisir. Salut, bye.
Le Salut.
Salut, c'est Nicolas Prévost. Ça me fait plaisir de vous retrouver samedi et dimanche pour la seule émission dédiée à cette industrie musicale dominante au Québec maintenant. Et je vais vous faire jouer les plus grands succès de la musique country.
Le Saloon.
Le Saloon.
Tous les samedis et dimanches.
Avec Nicolas Prévost.
C'est le sprint Santé Minceur chez Santé 2000 Le Club. Profitez des promotions anti-inflation allant de 15 à 50% pour un sprint rapide et efficace. Optez pour un mois tout inclus à deux entraînements par semaine avec entraîneur. Des évaluations corporelles, entraînement illimité en salle, un cours de groupe au choix et une consultation en nutrition. Découvrez l'endermologie pour seulement $9.95 et des rabais de 30 à 50% sur les forfaits. Bienvenue au club. Inscription santé2000leclub.com. Certaines conditions s'appliquent.
Comment protéger vos clés? En attachant à votre trousseau une plaque porte-clés de l'Association des amputés de guerre. Si vous perdez vos clés, la personne qui les trouve pourra nous appeler ou les déposer dans une boîte aux lettres. Nous vous les retournerons gratuitement. Ce service est plus important que jamais car les clés électroniques coûtent très cher à remplacer. Le service des plaques porte-clés des amputés de guerre, c'est gratuit et efficace. Commandez les vôtres à amputedeguerre.ca. et améliorer la vie des personnes amputées.
Le samedi 25 mai dès 19h30, soirée de boxe Construction Jolimont à l'Amphithéâtre Desjardins de Mont-Joli. 14 combats de haut niveau, sanctionnés par la Fédération québécoise de boxe olympique, mettant en vedette des boxeurs du Québec, de l'Ontario et du Nouveau-Brunswick. Billets en vente à partir de $25 sur ticketaccess.net ou sur le site de l'Académie de boxe BSL. Un événement présenté par l'Académie de boxe BSL de Rimouski en collaboration avec la Corporation des événements spéciaux de la ville de Mont-Joli et le Quality Inn de Mont-Joli.
Comment faire pour partir au volant d'une nouvelle Mazda avec une offre exceptionnelle? C'est très simple. 1. Choisissez n'importe quelle Mazda 2024 et profitez d'un taux de 1,9% au financement à l'achat sur 36 mois. Oui, un taux de 1,9%. 2. Choisissez un Mazda CX-5 Turbo et recevez un boni Mazda supplémentaire de $1,500. Et 3. Visitez votre concessionnaire Mazda dès aujourd'hui et repartez avec votre Mazda CX-5 2024. Certaines conditions s'appliquent. L'offre se termine le 31 mai. Détails sur Mazda.ca.
Le club de golf du Vic propose une nouvelle tarification dynamique et des prix à la baisse. Notamment un rabais de près de $300 sur un abonnement de saison pour les actionnaires qui font un retour. Réputé comme l'un des plus beaux au Québec, le parcours Bicois répond aux attentes les plus exigeantes. Voiturettes, boutiques, restaurations et bars sont au nombre des services offerts. Le Vic, une passion qui s'exprime dans un décor enchanteur depuis 92 ans. Plus d'infos au www.clubdegolfvic.com.
Le Québec maintenant.
Le Québec maintenant, maintenant. Votre point de repère.
Le Québec maintenant.
16h26 minutes. Vous vous souvenez peut-être de l'affaire du policier Sanjay Vig, un policier de Montréal qui avait été désarmé par un bandit en janvier 2021 et qui s'était fait tirer dessus. Il avait survécu, il n'avait pas été atteint par balle, mais l'affaire avait évidemment semé l'émoi. Et on s'en souvient, il y a un innocent qui avait été arrêté dans cette affaire-là, Mamadi Camara. Il avait été innocenté quelques jours plus tard. Et le vrai tireur, s'appelle toujours Ali Ngakurki. Il a été trouvé coupable et après avoir été arrêté dans cette affaire-là en attente de procès, il a été emprisonné à la prison de Rivière-des-Prairies. Dans la même cellule que lui se trouvait un homme, André Lapierre. Monsieur Lapierre était en prison, pas parce qu'il avait commis un délit, mais parce qu'il avait échoué un test antidrogue. Il ne devait pas consommer en vertu de ses conditions de remise en liberté. Monsieur Lapierre était héroïnomane. Or, Ali Ngarkoui, en cellule, a tué, a battu à mort Monsieur Lapierre. C'est une affaire qui est absolument épouvantable. Et Marie-Ève Morin, docteur, médecin de famille, spécialisée en dépendance et en santé mentale à la clinique La Licorne, connaissait André Lapierre. Elle est au bout du fil. Marie-Ève, bonjour.
Bonjour, M. Patrick, ça va bien?
Oui, merci. Toi aussi, j'espère. S'est parlé il y a quelques années d'André Lapierre. J'avais fait une chronique sur lui après sa mort. C'est une histoire absurde. D'abord, parle-nous de qui était André Lapierre avant qu'on parle des circonstances épouvantables de sa mort.
Oui, puis avant même de faire ça, je vais vous dire que j'ai eu la bénédiction complète de la famille pour vous parler d'André, qui a été mon patient de 2007 jusqu'à son décès. Et c'était un patient, comme vous l'avez dit, qui était opiomane, héroïnomane en particulier. Donc, on se voyait très souvent pour sa méthadone. Donc oui, M. Lapierre, c'est un homme qui était dans la cinquantaine quand ça s'est arrivé. Et je tiens à le mentionner, là, même si c'est un homme qui avait fait de la prison au fédéral, c'était pas un meurtrier, c'est un homme qui avait fait plusieurs délits dans le passé pour se procurer de l'argent pour payer sa drogue habituellement. Donc des petits vols qualifiés, des choses comme ça, mais c'était pas un meurtrier, c'était pas un trafiquant de drogue majeur non plus. Donc, André avait eu au total, je crois, 8 ou 9 ans de pénitencier à faire et il l'a fait au fédéral. Ça s'est quand même bien passé. Et pendant qu'il était incarcéré au fédéral, il en a profité pour arrêter sa méthadone progressivement. Il allait bien, il n'était pas exposé aux drogues en dedans, ou en tout cas, il n'était pas exposé aux opioïdes de rue. Alors, pendant sa sentence fédérale, il s'en était remis, c'est-à-dire qu'il avait progressivement cessé la méthadone. Mais Patrick, je ne sais pas si tu le sais, c'est quelle population il y a le plus de risques d'overdose mortelle parmi les opiomanes?
J'ai envie de te dire les héroïnomanes.
En fait, c'est ceux qui sortent de prison. Okay. Parce qu'ils n'ont plus de tolérance à la substance. Ceux qui sortent de thérapie. Et souvent, ceux qui viennent de terminer un traitement de substitution comme la méthadone ou la buprénorphine parce qu'ils n'ont plus la même tolérance qu'avant. Mais souvent, ils vont reconsommer la même dose qu'avant. Donc, pour en revenir à André, quand il est sorti du fédéral, il allait bien. En passant, c'est un monsieur qui avait une conjointe stable. C'est sa conjointe avait un enfant qui était comme son fils à lui. C'est un homme qui avait une famille très stable, très unie aussi. C'est un homme qui avait un emploi stable, qui payait des impôts comme tout le monde. Dès qu'il est sorti de prison, il a repris son emploi. Et c'est un homme qui avait un réseau social aussi. Là, il avait des amis. C'est un homme qui avait du sang autochtone aussi. Donc, il avait des amis là, dans les communautés autochtones aussi. Et quand André est sorti de prison au fédéral, moi, je l'ai accueilli comme patient. Je l'ai revu. Et il me disait que ça allait bien, qu'il avait pas touché aux drogues et tout ça. Malheureusement, pas longtemps après, il y a eu une rechute d'opioïdes. Et à ce moment